Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Je dois tenir ma maison. Ma belle-mère, elle a dit, je dois travailler, élever ma fille, plier le linge, empiler les bols dans les bols, les tasses dans les tasses, les assiettes dans les assiettes. Je dois ranger mes crocs, faut pas qu'elles traînent. Apprendre à ma fille à dire bonjour, merci, je t'aime, mamou. Je dois lui faire deux couettes pour éviter les poux. Je dois le potager, il y a les patates. Cuisiner le déjeuner pour moi, mon homme. Préparer le dîner, le goûter, le petit déjeuner. Je dois mes cheveux friser, faut pas que ça dépasse. Quand je vais travailler, je nettoyer la poussière sur la table, sous le poêle, derrière le frigo, les miroirs. Je dois les miroirs renvoyer une image propre. Les miroirs sans dentifrice, sans trace de doigts. Je dois les miroirs sans bourrelet. La litière des chatons, nettoyer. Je dois être parfaite. Ma belle-mère a pas dit, j'ai senti. Je dois ma coiffure, frotter les vitres, jouer avec ma fille. Elle a du feutre sur la joue, des crottes de nez sur la joue, de la terre sur les genoux, des crottes de nez. Je dois ma fille, sa coiffure. Ma belle-mère, elle a dit, ranger les jouets dans des boîtes adéquates. Je vider, lave-vaisselle, compost, litière. Je dois balayer. Ma belle-mère, astiquer, aimer mon homme. Ma fille, ma belle-mère. Je dois manger des faisselles. Le maître veut une grande boîte de faisselles. Je dois danser sexy. Entretenir mon body sexy. Danser pole dance sexy. Me coiffer sexy. Tartiner sexy. Le pain de ma fille mignonne. Ma belle-mère. Faire cuire les pâtes sexy. Chauffer le biberon de ma fille mignonne. Essuyer, frotter, balayer sexy. Je dois avancer les travaux sexy. Je dois mettre une bûche dans le poêle. Il fait chaud sexy. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait chaud. La barrière passe brûlée. Ma fille mignonne. Crotte de nez sur sa joue. La terre sur ses genoux. Je dois m'adapter. Téléphone. L'école. Travailler. Sexy. Réparer la voiture. Sexy. Les bobos de ma fille mignonne. Rassurer ma belle-mère. Border ma fille. Border ma fille mignonne. Je dois sourire. 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 Je dois sourire sexy. Je dois sourire tous les jours. Sourire sexy. Faire tout ça tous les jours. Tout ça tous les jours sexy. Avant de mourir. sexy. Mourir sexy. Ma belle-mère a pas dit. J'ai senti.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Et nous sommes en compagnie de Héloïse Plantrou. Bonjour.
Bonjour.
Héloïse, tu es avec nous pour annoncer une date à venir, même plusieurs, et notamment celle du vendredi 17 janvier au Bar à Bock à 19h pour un spectacle proposé avec Franz Vélier, dont tu nous parleras, et qui une proposition intitulée Les Bestiales, et avec le titre Ma belle-mère, elle a dit. Donc c'est surtout de la chanson avec des textes engagés, féministes avant tout.
Oui, alors oui et non, c'est pas de la chanson, c'est de la lecture. C'est une proposition de lecture musicale, de lecture concert. On ne peut pas dire que je chante à proprement parler. Je lis des textes et je dis des textes que j'ai écrits et qui sont issus d'un recueil qui s'appelle Ma belle-mère, elle a dit.
On a ouvert l'émission avec une de tes propositions, justement, c'est « Ma belle-mère, elle a dit », c'est en quelque sorte un teaser hein, du spectacle.
Oui, c'est un des morceaux qu'on a enregistrés, alors il y a déjà un petit moment, et qu'on aime beaucoup. C'est voilà une comme vous avez pu l'entendre, c'est une suite d'injonctions faites aux femmes dans la vie quotidienne. On peut imaginer que c'est la belle-mère, mais la figure de la belle-mère, ça peut aussi être la société tout entière qui attend des femmes pour résumer d'être partout, d'avoir 36 bras et d'être parfaite,
d'être belle et de se taire.
Ça raconte ça.
D'être belle et de se taire. Ouais. Oui.
Voilà. Ouais, ouais.
Et donc, contrairement à cette injonction, toi, tu prends au pied de la lettre pour parler, beaucoup parler.
Ouais. Dans les textes, je raconte différentes choses, différents moments de éventuellement la vie d'une femme. Je parle de sujets. Qui sont plutôt tues. Alors évidemment, on entend de plus en plus parler de certains sujets et c'est super. Mais voilà, je prends la parole sur des sujets qui concernent les femmes et qu'on raconte peu et qui pourtant concernent une bonne partie des gens, quoi. Et je trouve que c'est important de mettre sur la table des sujets qui sont considérés comme tabous, que c'est important de les exprimer, que ça puisse faire écho aussi aux personnes qui écoutent, aussi bien les personnes qui sont concernées que des personnes qui sont moins concernées, mais qui peuvent comprendre en fait ce qu'on traverse en tant que ce qu'on peut traverser quand on est une femme, pour une femme dans la vie, quoi, en France.
Est-ce que depuis les premiers mouvements de libération de la femme à la fin des années 60, est-ce que tu penses quand même qu'il y a eu une évolution et une reconnaissance plus ample de la femme dans la société ?
Ouais, je dirais plus même des femmes. Oui, évidemment, ça a avancé, bien sûr. Il y a eu plein de choses qui ont avancé, mais on en est encore, pas assez en fait, pas assez. Et c'est hyper important de montrer que on est là, on a des choses à dire, on a des choses à dénoncer, on a des choses à raconter, il faut qu'on prenne conscience des choses, on a des choses à déconstruire, il faut qu'on se soutienne, il y a des violences, globalement c'est ça quoi, c'est des violences, c'est des oppressions et c'est fondamental à mes yeux de prendre conscience de tout ça, d'avoir conscience de tout ça pour changer les choses et puis d'être dans quelque chose de plus doux et de plus juste.
Le progrès tient-il plus de la mise en lumière de ces problèmes de la femme ? On peut parler d'avant les années 60, il y avait comme une espèce de chape de plomb, de sujets très tabous. Donc, est-ce qu'il y a eu cette libération de parole aussi qui continue et qui s'amplifie ? Est-ce que tu penses qu'il y a, une nouvelle voie ? Enfin, est-ce qu'il y a une voie qui s'ouvre réellement pour cette libération ?
Mais il y a des milliers et des millions de voix qui permettent en fait de raconter ce que c'est que d'être opprimé dans ce qu'on est au quotidien. Il y a des millions de voix qui se soulèvent de plus en plus. Et bien sûr, moi, je suis persuadée que l'exprimer, le raconter, le transmettre des messages, c'est une manière d'avancer. Pour que pour avoir une prise de conscience collective. Alors évidemment, c'est pas du tout gagné, c'est encore hyper compliqué. Il y a beaucoup de problèmes, mais je pense qu'il y a eu une avancée, ouais. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'expriment.
Et on peut parler aussi de l'actualité hein, au niveau international, notamment en Afghanistan et en Iran. Quelles sont ces situations à tes yeux ? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi ?
C'est l'enfer, je pense. Que des femmes ne puissent pas s'exprimer, que des femmes ne puissent pas s'habiller comme elles ont envie, qu'elles ne puissent pas être qui elles veulent, que des personnes ne peuvent pas être juste qui elles sont, en fait. Que ce soit des femmes cisgenres ou alors des femmes aussi transgenres. Enfin, pour moi, c'est terrible de ne pas pouvoir être juste qui on est. Mais je comprends pas pourquoi on ne laisse pas juste les gens tranquilles, en fait, et être qui ils sont, tout simplement, quoi. C'est terrible.
Les textes proposés lors de tes spectacles sont de ton écriture et tu es accompagné aussi à la guitare par Franz Villiers. Pour vous, comment se élabore ce spectacle entre vous deux ?
Alors au départ, j'ai proposé à Franz qu'on bosse ensemble sur une série de textes donc autour d'injonctions faites aux femmes. Il a proposé rapidement de la musique en m'écoutant lire les textes. Et ça a été assez fluide entre nous. On se connaît bien et on se connaît depuis longtemps. On a beaucoup travaillé ensemble. Donc ça, on a assez rapidement trouvé une musique pour accompagner les textes. Et puis petit à petit, ça a évolué parce que ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé à travailler sur ce projet. La première fois, c'était presque de l'improvisation, puisque on avait très peu répété. En tout cas, de l'improvisation pour lui dans ce qu'il proposait musicalement, et puis pour moi aussi dans la manière de lire les textes, de les interpréter. Et puis, voyant comment les retours qu'on nous faisait, en fait, on a vraiment eu envie de continuer parce qu'on a vraiment été encouragés par les personnes qui nous ont écoutés. Et petit à petit, on a plus bossé certains morceaux, rythmiquement aussi, certains morceaux sont devenus un peu plus... ils se sont plus déployés, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, on a aussi décidé de travailler la mise en scène. On a travaillé avec Adeline Francin, qui est comédienne. Et on a essayé de travailler notre relation à nous deux sur scène, qui on était, en fait, puisqu'il y a un homme qui fait de la guitare électrique, et puis moi, une femme cisgenre qui lit des textes autour de toutes ces thématiques-là, et quelle relation en fait on a, nous, sur scène. Il y a quelque chose de très... Je sais pas comment dire, on est deux personnages très en lien, en tout cas, et on est vraiment là pour porter des messages qui sont pour nous... fondamentaux. Alors c'est vrai qu'on a des retours souvent très très positifs de gens qui sont hyper enthousiastes. On a eu aussi des retours de personnes qui étaient choquées qu'on parle des règles, qu'on parle des violences faites aux femmes, qu'on parle de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint, qu'on parle de sujets comme ça. Mais pour moi, ça le fait que ces personnes aient été choquées ou touchées, déçues, et ben pour moi, c'est gagné quand même parce qu'en fait, ça les a touchées, en fait. Et peut-être que ça va les faire réfléchir et avancer et sur tous ces sujets-là.
À ma demande, tu nous as proposé 3 extraits musicaux, hein, notamment donc, celui qu'on a écouté en début d'émission. Il y a aussi Les Vulves Assassines avec Les Champignons. Alors, pourquoi cette proposition d'écoute ?
Bah, tout simplement parce que je me suis dit que j'avais qu'il y a une actualité, c'est la mort de Le Pen. Et je me suis dit que on pouvait faire un petit coup de pied à l'extrême droite. Et les Vulves Assassines, c'est un groupe de meufs. Et voilà, dans ce morceau-là, elles font un bon coup de boule à l'extrême droite. Voilà.
Cette image d'extrême droite, pour toi, qu'est-ce qu'il représente, ce parti, ce mouvement d'extrémisme par rapport à la femme?
En fait, moi, je vois les, enfin, pour moi, j'ai une vision assez globale de lutte. Pour moi, le féminisme, c'est aussi une vision globale, une lutte globale contre les oppressions en général. Il faut tenir compte des minorités, que ce soit des personnes qui sont racisées, des personnes qui sont minorisées pour des questions de genre. Il faut essayer de se déconstruire, il faut essayer voilà, de se situer, d'avoir conscience de ses privilèges, de se poser des questions sur soi, de regarder le monde avec ce filtre-là. En tête pour plus de paix. Et pour moi, bah, l'extrême droite, clairement, c'est plutôt l'inverse, quoi, tout simplement.
Voilà, c'est quasiment le même intégrisme qu'on pourrait voir aussi de ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan. Ça pourrait aboutir à ce genre de système, penses-tu?
Ouais, je pense, ouais. Ouais.
Il y a ce spectacle donc que vous proposez ce 17 janvier au Bar à Bock à partir de 19h qui s'intitule donc Ma belle-mère, elle a dit. Alors ça aussi c'est un cliché de celui de la belle-mère. Est-ce que je n'ai pas cette expérience, mais est-ce que l'image de la belle-mère est toujours aussi vivante de nos jours?
Non, mais comme je disais tout à l'heure, oui, enfin, on peut dire ça. Évidemment, ça dépend des personnes et ça dépend des familles. Mais derrière la belle-mère, c'est toute la société, en fait. c'est toute la société. Il faut surtout pas se dire que c'est que les belles-mères qui emmerdent le monde et qui. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est vraiment la société tout entière qui attend des femmes qu'elles soient comme ci ou comme ça. Et là, ma belle-mère, elle a dit, c'est ça. Voilà, c'est un texte. Qui parle, enfin, c'est une personne qui parle et qui déplie toutes ces couches d'injonctions qui arrivent les unes après les autres en tant que mère. Mais voilà, faut pas non plus prendre ma belle-mère au pied de la lettre. Et je pense que c'est cette société-là tout entière patriarcale dans laquelle on vit.
Est-ce que il y a on peut parler, ou est-ce que tu peux présenter un aspect du spectacle ? De quel sujet traite-t-il ? Notamment la relation entre Franz sur scène avec toi. Est-ce que vous interprétez aussi un peu de théâtralité ?
Ouais, oui, bah du coup, comme je disais, on a travaillé la mise en scène et on a travaillé les personnages. Et oui, petit à petit, c'est devenu plus qu'une lecture, c'est devenu autre chose qu'un concert, mais on l'appelle quand même lecture-concert. C'est théâtralisé. On sent, par exemple, dans mon personnage à moi, qu'il y a tout simplement une rage contenue et qui parfois déborde. On sent que Franz, il est là en soutien. En tant que mec sur ce spectacle-là, on sent que on s'appelle les bestiales et c'est pas pour rien aussi. On sent que qu'il y a des bêtes en nous qui ne demandent qu'à s'exprimer, voilà. et ça, oui, ça se voit sur scène. C'est pas forcément évident d'en parler sans tout révéler, mais ouais, il y a quelque chose d'assez d'assez animal, d'assez parfois peut-être, j'allais dire primaire, c'est pas forcément pas dans le sens, pas dans un sens péjoratif quoi. Il y a quelque chose d'assez, oui, d'assez bestial qui ressort et qui traduit cette rage en fait face à ce qui se passe, face aux oppressions que quand on est une femme ou quand on est une personne minorisée qu'on vit et qu'on a toujours vécu. Ouais.
Franz, d'ailleurs, on percevra sa voix sur la scène.
ouais, on entend très peu sa voix. On l'entend un tout petit peu, ouais. Il est vraiment, c'est sa présence. Il y a sa présence physique, il y a sa présence musicale, et il y a aussi sa voix, ouais, un petit peu à un moment.
Troisième extrait que tu nous as proposé, c'est aussi une chanson d'Anne Sylvestre, « Écrire pour ne pas mourir ». Alors, pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il fait écho en toi pour proposer et peut-être t'inspirer aussi ?
Ouais, bah oui. Anne Sylvestre, bah c'est une personne que j'écoute peu, mais je sais qu'elle a eu une vie de chansons et de chansons féministes et je trouve quand je l'écoute, je trouve tout hyper beau et des paroles hyper justes. Et écrire pour ne pas mourir, j'ai choisi celle-là parce que bah moi j'écris. Pourquoi j'écris? C'est pour survivre aussi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir questionner, pour pouvoir dénoncer, raconter. Et voilà, ça fait complètement écho, moi, à ma pratique de l'écriture qui est comme vitale, quoi. Ça vient des tripes, c'est trop important et c'est trop important de transmettre des messages.
L'écriture est donc une retranscription de nos pensées. Donc les tiennes inspirent ton écriture. Est-ce qu'il y a une manière aussi qui t'a été inspirée par d'autres auteurs ?
Oh là là, je ne sais pas. je sais. Oui, bien. Enfin, je suis forcément teintée de tous les livres que j'ai lus, que je lis. En plus, je suis une grande lectrice depuis toujours, donc évidemment que je suis complètement teintée. Mais là, comme ça, de donner mes sources d'inspiration, c'est trop difficile. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ça traduit mes pensées, mais pas que. Je viens du milieu du journalisme. Je suis journaliste à la base. Je fais de la radio depuis, je ne sais même pas, à peu près 20 ans. Ouais, 20 ans. Et j'ai longtemps donné la parole aux gens pour essayer de les comprendre. J'ai enregistré des gens, je retranscris ce que des gens disent à travers des textes. Et c'est toute cette matière-là, c'est ce que je remodèle, que je retravaille et avec mes pensées aussi pour rendre des choses que j'espère dans mes textes, en tout cas des messages clairs et avec mon langage à moi, ma rythmique à moi, ma poésie à moi. Je parle parfois de ma... J'écris à voix haute parce que je viens du monde de la radio, donc ma patte à moi qui rend tout plein d'histoires, tout plein de points de vue, tout plein de pensées que j'ai glanées ici et là, et que j'ai retravaillées.
Et d'ailleurs, comment dire, Franz opère plutôt une espèce de rythmique à tes côtés par rapport à sa guitare. D'ailleurs, les extraits que j'en ai vus, c'est plutôt une guitare rythmique plutôt que soliste.
Alors, il y a plusieurs morceaux qui sont vraiment rythmiques, mais Franz, la guitare de Franz, c'est aussi et beaucoup une ambiance. C'est des ambiances. Il y a même un morceau qui était vraiment bruitiste, qui a aussi un peu évolué, mais c'est vraiment ambiance et on l'entend peu sur des mélodies. Il y en a un tout petit peu. En gros, et oui, il joue. Oui, il y a un moment où il joue seul, mais sinon, on est là tous les deux. Ces ambiances, son rythme et les quelques mélodies viennent vraiment soutenir les textes, quoi.
Alors, on va bientôt arrêter l'émission. Je voulais savoir, ce vendredi 17 au Baraboc, est-ce qu'il y a une nécessité de réserver et peut-être indiquer comment joindre?
Alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut voir directement avec le Baraboc.
Ces lieux comme le Baraboc, où je vois aussi une date à Chabriant chez l'habitante, est-ce que c'est aussi un lieu de prédilection pour vous d'être au plus près, d'être dans une ambiance plutôt intimiste avec le public ?
Ouais, jusque-là, c'est vrai qu'on a principalement joué devant un public relativement restreint, quoi, entre, 15 et 50 personnes. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette formule-là. Ce que j'ai constaté, on a joué une quinzaine de fois. Ce que je constate, c'est qu'on a toujours, toujours un public attentif du début à la fin. C'est pas un concert pendant lequel on discute, c'est un concert, c'est une lecture concert qu'on écoute. Souvent, on s'assoit et on écoute, et les gens restent vraiment du début à la fin. C'est assez bluffant. Et est-ce que ça fonctionnerait dans une grande salle? Peut-être. En tout cas, on est ouvert aussi aux grandes salles, mais en tout cas, nous, on aime aussi cette ambiance intimiste. Ça s'y prête bien, quoi.
Est-ce que vous avez une visibilité sur Internet aussi pour découvrir ou prendre contact avec vous?
Ouais, on peut aller sur mon site Internet, il s'appelle Le Clapotis d'Elo, donc d'Elo comme Héloïse. Et là, il y a une page « Ma belle-mère, elle a dit », il y a les différentes dates qui vont arriver. Il y a un teaser aussi vidéo qui est un peu daté maintenant parce qu'on a vraiment fait évoluer le projet. Comme je disais, on est dans quelque chose de moins lu, mais plus dit et théâtralisé. Mais ça donne quand même une idée. Ça vaut le coup d'aller voir s'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus. Et puis, il y a un bouquin. Il y a un bouquin aussi donc, qui est paru il y a un peu plus d'un an dans une maison d'édition crétoise qui s'appelle « Trois petites truites éditions ». Et c'est un bouquin qu'on vend à la fin des lectures concerts qui s'appelle « Ma belle-mère l'a dit » et dans lequel on va retrouver tous les textes qu'on entend pendant le spectacle.
Héloïse Plantrou, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps pour annoncer donc cette date du vendredi 17 au Bar à Boc à 19h pour Ma belle-mère et l'a dit, donc opéré par Les Bestiales qui sont vous-même Héloïse Plantrou et Franz Veillier. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Et nous nous quittons donc avec cette chanson d'Anne Sylvestre, Écrire pour ne pas mourir. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite, ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler, je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Écrire pour ne pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire à piller ma colère. Être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste, et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau, et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau, écrire pour ne pas mourir.